Donc le plus important, c'est d'accompagner ce changement. Nous, ça a été brutal. Entre la génération des parents et celle des enfants, ben alors là, c'était une catastrophe. Parce que les enfants ne parlent même plus la langue maternelle, ils ont appris tout de suite le français, ils rentrent chez eux, ils comprennent même pas leurs parents, quoi.
Ouais.
Là, aujourd'hui, je vois, on sort un dictionnaire teco, en langue teco, et j'ai bien aimé les discours qui ont été tenus par les jeunes en disant, ouais, je parle pas très très bien la langue, mes parents oui, mais pas moi.
Ouais.
Donc ça a vraiment créé un décalage énorme.
Ouais, sûr.
Et c'est ça aussi qui peut engendrer de très grandes frustrations, difficultés d'insertion professionnelle, et qui peut engendrer aussi de la délinquance, des addictions, voire même conduire au suicide. Voilà, c'est ce décalage en fait qui nous pose problème aujourd'hui.
Cette rupture entre la génération d'avant et...
Trop brutale, oui. Okay. En fait, toutes les études là-dessus montrent bien que il est très important de... le changement, d'accord, on ne peut pas aller à l'encontre. Et ce qu'il faut surtout, c'est pouvoir toujours avoir cet ancrage dans un, on va dire, dans un cocon rassurant. Parce que ce cocon rassurant, ça reste l'autorité, en fait. C'est lui qui pose les limites. Ça, c'est bien, c'est pas bien, les interdits. Et toutes les sociétés ont besoin de ça, de la limite et de l'interdit. Et on se retrouve, nous, dans une situation particulière en Guyane où on a les structures familiales qui sont complètement déstructurées aujourd'hui, c'est-à-dire que bien souvent, ben, les familles n'ont plus les mêmes valeurs, normes qu'avant. On dirait qu'elles s'insèrent dans un nouveau monde. Donc on va voir par exemple des jeunes qui vont quitter les Campous pour s'installer à Saint-Laurent. Là, j'ai plus la famille autour pour me prendre en charge. Je me retrouve souvent seule avec mes enfants. J'ai moins le temps. Et les enfants, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc en fait, on se retrouve dans cette situation-là où la famille et l'organisation familiale, cette cellule familiale, a toute son importance parce que ça reste quand même l'autorité, ça reste le repère d'une certaine manière. C'est-à-dire que si moi je peux pas, ma mère est là, ma grand-mère est là, il y avait toujours les relais dans la cellule familiale élargie. Et se retrouver du jour au lendemain seul avec ses enfants, c'était totalement inédit, on ne connaissait pas ça ici. Et là, ben, je me retrouve avec beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en difficulté parce qu'il n'y a pas... des femmes qui sont en difficulté parce qu'il n'y a pas le réseau familial autour pour les accompagner.
Oui, c'est ça.
Où je peux suivre ma formation à l'université parce que mes parents gardent les enfants. Donc je ne suis pas toute seule.
Oui.
Ça, c'est une force.
Ouais, c'est vraiment compliqué. En fait, c'est ça dont moi, je voulais surtout parler. En fait, je voulais parler des femmes en Guyane. Et, parce qu'en fait, j'ai un peu fait... j'ai fait des rapides recherches. En fait, parce que je me dis que la situation en Guyane, elle est quand même assez particulière, on va dire. Et que c'est toujours intéressant de se pencher pour savoir en quoi elle est particulière et qu'est-ce qui la différencie des autres territoires français, notamment de la métropole. Et par exemple, quand on regarde un peu des chiffres de l'INSEE, on voit qu'en fait, il y a un foyer sur deux qui est un foyer qui est monoparental et à très, mais très, très largement, qui est en fait occupé par une femme. Donc, c'est les femmes qui ont la charge des foyers monoparentaux ici. Et donc, c'est vraiment une charge qui est énorme. En fait, souvent, il n'y a pas qu'un seul enfant. Et il faut réussir à s'en occuper, il faut réussir à trouver un travail, avec toute l'histoire de l'immigration aussi. On se dit, mais comment est-ce qu'elles font, ces femmes ? Et en fait, je voulais revenir là-dessus parce que la première fois où je vous ai vue, c'était donc à un débat qui était organisé à Cayenne par la compagnie de théâtre Zoukouyanyan. Et c'était donc le titre de ce débat, c'était « La place de l'art et des pratiques culturelles dans notre perception du rôle des femmes dans la société ». Bon, c'est un peu compliqué, mais c'était parler un peu de la culture et des questions de genre et tout ça. Et à un moment donné, donc, il y a une des intervenantes qui a dit « Moi, j'ai de la chance d'être là parce que c'est mon mari qui garde les enfants à la maison. »
Et il y avait on l'a applaudi.
Ouais, on l'a applaudi. Et juste après, il y a Mapi qui a eu le réflexe de dire « Moi, je viens de Martinique. » Et en fait, et la situation, c'est la même en Guyane. Je crois que c'est un peu pire en Martinique, mais c'est à peu près la même chose. En fait, il y a énormément de femmes qui doivent s'occuper des enfants et qui n'ont pas de mari et qui... moi, par exemple, c'est mes parents qui sont en train de s'occuper de ma fille parce que si je peux être là, c'est grâce à eux et c'est seulement grâce à ça, quoi. Mais c'est vraiment une situation qui est, enfin, je pense que qu'il faut pas dénier en fait que les femmes en Guyane, elles sont majoritairement à s'occuper des enfants et je pense que c'est une charge qui est énorme en fait.
Ben là, ça explique après les chiffres de l'INSEE concernant l'insertion professionnelle, parce qu'on a le taux de chômage féminin le plus élevé de France. Voilà, ben c'est logique.
Ouais,
du coup, dit ben oui. On voit déjà les difficultés qu'elles ont à suivre une scolarité. On se retrouve avec beaucoup de grossesses adolescentes aussi. Là, j'essaie de faire un travail justement pour que ça ne devienne pas un frein. Ok, bon, t'es tombée enceinte, ça va, c'est pas la fin. T'as encore la possibilité de vivre. C'est vraiment ça, se dire, bon, oui, ça arrive. Mais c'est de faire en sorte qu'elles puissent poursuivre une scolarité, une formation. Ensuite, nous, on a des problèmes d'insertion professionnelle, de formation en général. C'est-à-dire qu'après, si elle termine sa scolarité, elle a déjà cette chance. C'est quelle formation professionnelle ? Et là aussi, on a un vrai problème, c'est qu'on se rend compte que les femmes se dirigent vers les mêmes secteurs d'activité. Donc, chômage qui augmente encore plus pour elles, parce qu'elles se retrouvent à 15 à postuler pour cet emploi, alors qu'il y a d'autres secteurs qui sont disponibles, mais on ne va pas retrouver de femmes, parce qu'elles n'y pensent pas, c'est tout. Ou elles sont découragées aussi. Je travaille beaucoup en lycée professionnel, j'interviens pas mal dans les lycées professionnels, où je vois une fille en mécanique, mécanique auto, puis elle me dit, mais moi, j'ai toujours aimé ça. J'adore ça. Et je me dis, mais combien de filles, justement, hésitent et disent, mais j'aime ça, en fait, mais j'ose pas le dire.
Pas, c'est ça.
Voilà, et en mécanique auto, bah, y a l'embauche, y a la possibilité de créer son entreprise. C'est ça, en fait, c'est l'idée, c'est vraiment de faire sauter ce verrou en disant, arrêtons de genrer les métiers, le monde en général. C'est-à-dire, véritablement, parce que ça nous pose de vrais problèmes d'insertion et de cohésion dans la société. Beaucoup de femmes, aujourd'hui, se retrouvent dans une situation de dépendance totale, financière, vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leur conjoint, leur partenaire, ou même des fois, bon, juste un homme qui passe de temps en temps, simplement parce qu'elles ne savent pas comment chercher du travail et où. Donc ça, et justement, on va voir des cycles de la violence aussi, là, parce qu'il y a une domination. À chaque fois qu'il y a domination et déséquilibre, on retrouve la violence. C'est ça qui va engendrer de la violence. Donc c'est l'idée, justement. C'est, alors, quelle est notre spécificité ? C'est que notre particularité, ici, par rapport à la Martinique, la Guadeloupe, peut-être un peu moins à Mayotte, c'est-à-dire on va ressembler plus à Mayotte. Notre particularité, c'est qu'il y a vraiment encore, ici, des populations qui vont utiliser des modes de vie, des modes de pensée, d'organisation très traditionnels. Donc, ça va être très difficile pour quelqu'un de l'extérieur, un travailleur social, d'intégrer, de parler à une famille, de se présenter. Par exemple, dans certaines communes, j'ai des difficultés à faire en sorte que les victimes déposent plainte en cas de violence. Parce que le groupe va intervenir et c'est au nom du groupe qu'elle va parler. Donc on a encore ce poids des clans. Chez nous, on a beaucoup de structures. C'est pourquoi on a cette spécificité, c'est qu'on a des organisations parentales qui sont claniques. Et les clans, c'est particulier. Par exemple, amérindien, noir, marron, mong, chinois, ce sont des organisations claniques. Ça fait quand même beaucoup. Les mong, les chinois, les amérindiens et les noirs marrons ont une organisation parentale clanique. Ça veut dire quoi ? Dans un clan, on n'est pas un individu. On est avant tout membre du clan. Donc, la femme qui a des problèmes, c'est, si elle va dénoncer, elle va jeter le discrédit sur l'ensemble de son clan. Elle va impliquer l'ensemble de son clan. On va pas dire, bon, c'est son problème de couple, hein. Moi, je m'en mêle pas, c'est sa vie. Ça, c'est la conception nucléaire, c'est-à-dire les parents, les enfants, c'est très occidental. Les parents, les enfants, c'est mon noyau nucléaire. Ben, chez nous, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de populations encore qui vivent avec ce système clanique. Et il faut le comprendre, justement, pour aider les victimes et aider les femmes à s'insérer parce qu'elles font partie du groupe.
C'est compliqué de réussir à visualiser qu'est-ce qui en fait empêche. En fait, on pourrait se dire si je fais partie d'un clan, c'est pas très grave parce que ça peut aussi se solutionner à l'intérieur du clan, par exemple. C'est-à-dire que si je vais le dire à cette personne-là, finalement, il va y avoir une sanction interne, tu vois.
Enfin, normalement, c'est pas... oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Le clan est là pour ça. Il y a des conseils à l'intérieur des clans. Tous les clans sont dirigés, 100% des clans, que ce soit noir-marron, amérindien, bushinengue, et noir-marron, bushinengue, amérindien et mong, chinois et mong, c'est des clans qui sont gérés par les hommes. Tous les clans. tous les clans, les groupes sont gérés par les hommes. Même chez les Noirs marrons, ce sont des matrilignages, mais dans un matrilignage, le pouvoir est donné aux frères. C'est-à-dire okay. que dans mon matrilignage, ce n'est pas moi en tant que femme qui ai le pouvoir, c'est mon frère.
Okay.
Mon mari n'a pas le pouvoir, okay. mais mon frère l'a.
Ah d'accord.
Donc ce sont toujours les hommes, en fait,
okay.
qui ont le pouvoir dans les conseils, qui siègent au conseil, et les femmes ne prennent pas la parole. Donc normalement, oui, les clans sont là, parce que je prends des cas de maltraitance où le mari néglige sa femme. Ah ben là, tout de suite, ça passe dans le conseil et le mari est sanctionné. Mais c'est pas lui, en fait, c'est tout son clan aussi. C'est-à-dire okay. que la faute qu'il a commise, c'est ça la particularité des clans, c'est que la faute qu'il a commise, c'est une faute qui va se répercuter sur l'ensemble de son clan. Donc on fait très attention.
Mm.
Parce que c'est pas, on va pas dire, c'est son problème. C'est le problème de tout le monde. Et là, c'est les deux groupes qui vont se réunir et réfléchir.
Oui.
Donc oui, en même temps, il y a... on va dire qu'il y a une protection, d'une certaine manière. Parce que la femme peut aller se plaindre à son frère et mmh. dire « il me néglige ». Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il ne s'occupe pas de ses enfants, il ne vient pas. Tout de suite, on active les réseaux, on active les clans, les conseils, le frère qui intervient au nom de sa sœur, qui va l'aider, normalement, oui. Le problème qui va se poser aujourd'hui, c'est que l'organisation, elle est quand même largement court-circuitée. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve, par exemple, avec des cas d'hommes. Donc, normalement, les maris n'ont pas d'autorité sur les enfants dans les clans. Mmh. matrilinéaire. Dans un clan matrilinéaire, les maris ont une charge... Ils sont géniteurs. Ils ont une charge financière. Mmh. Je m'occupe de mes enfants, de ma femme, et je ne me mêle pas de l'éducation. Par contre, après, je m'en vais. Je ne reste pas. Je ne vis pas avec eux. C'est interdit.
Ah, ok.
Dans un matrilignage, chez les Noirs marrons, le mari ne vit pas là. Il n'a pas le droit.
Ah d'accord.
C'est le clan de sa femme qui se charge, les hommes du clan de sa femme qui se charge de toute l'éducation et de la socialisation des enfants.
Ok, d'accord.
Donc aujourd'hui, pourquoi je dis que ce système est complexe ?
Mmh.
Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a des hommes qui sont en situation régulière sur le sol guyanais,
mmh.
qui vont se mettre en couple avec des femmes en situation irrégulière,
mmh.
qui vont percevoir l'allocation familiale, et qui, du coup, vont prendre l'autorité et le pouvoir sur ces femmes.
Ah oui, ok.
Donc, voilà, un système, en fait, qui, normalement, était favorable aux femmes, elles se retrouvent totalement dépendantes.
Mmh.
Et c'est, je pourrais presque dire que c'est stratégique, quoi, parce que, tiens, il a les allocations qu'il perçoit, elle a aucun papier ici, elle est exploitée, d'une certaine manière, mmh. et ne peut rien dire.
Mmh.
Elle n'est pas en situation régulière. Mmh. Donc, on se retrouve dans des cas comme ça où... le clan est contourné d'une certaine manière.
Mm-hmm.
Parce que l'homme va choisir une proie, parce qu'on pourrait dire, hein, c'est, pour avoir bénéficié des locations, mm-hmm. avoir des bénéfices, une répercussion financière mm-hmm. dans sa stratégie, en fait, qu'il va mettre en place.
Mm-hmm.
Donc, c'est toute la difficulté. Nous, on doit faire face à tout ça, en fait. C'est toute, mm-hmm. Toute une perversion, d'une certaine manière, du système. Mm-hmm. C'est... il y a une utilisation des dispositifs, un contournement mmh. de ces dispositifs qui est fortement défavorable aux femmes.
Mmh.
Elles sont souvent victimes, en réalité.
En fait, c'est complexe entre le fait qu'il y ait une perpétuation des traditions donc, de ces clans et en même temps, ils se délitent quelque part un petit peu dû au fait qu'ils intègrent de plus en plus... tout ce qui est organisé par la métropole, en fait.
Exactement.
Et donc, entre les deux, c'est oui. un peu une frontière qui est poreuse. Et donc, c'est compliqué, quoi. Entre le fait que, du coup, le clan ne va plus réagir mm-hmm. à des violences qui sont faites.
Mm-hmm.
Et en même temps, elles ne vont pas être dénoncées et prises en compte ouais. Par les autorités sur place, en fait. Enfin, les autorités.
C'est exactement ça. C'est que je me retrouve dans des cas où, dans le campou, tant que je suis dans le village, il y a tout le groupe qui va surveiller. Beaucoup vont aller s'installer à Saint-Laurent. Là déjà, on ne sait plus trop ce qui se passe, on ne les voit pas, des jeunes couples. Les femmes, si elles se séparent, là, elles se retrouvent vraiment seules.
Mmh.
Alors que dans le campou, on n'est jamais seul avec ses enfants. En réalité, dans le campou, il n'y a pas de monoparentalité. Le mari ne vit pas là, il n'a pas le droit. Mais j'ai tout le clan autour de moi pour aider.
C'est ça.
Ensuite, je quitte, je vais à Saint-Laurent. Je suis seule. Alors là, totalement seule.
Mmh.
Pire, aujourd'hui, que nous avons comme problème. Et là, je reçois même des sollicitations de la France métropolitaine, de travailleurs sociaux, d'assistantes sociales qui m'écrivent. Ils me disent « Oui, j'ai trouvé votre nom sur Internet, j'ai une famille de Noir... » Enfin, ils disent pas « Bouchenengue », ils vont me dire « J'ai une famille de Guyane, là, et j'essaie de comprendre leur mode de vie. Pouvez-vous m'expliquer ?»
Comment ça ?
Voilà.
Ah ouais.
On se retrouve dans des cas où il y a des familles qui sont complètement perdues. Il y en a une qui m'a écrit, une assistante sociale de Lille, qui m'a écrit pour essayer de comprendre. Elle me dit, bon là, j'ai un problème, ils doivent passer devant la justice et m'expliquer parce que je ne comprends pas. Ouais. Donc ça, c'est pire que tout. C'est-à-dire, véritablement, aujourd'hui, on a beaucoup trop de jeunes qui partent et qui sont plus contrôlés, en fait. Qui sont plus, on ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas ce qu'ils font. Et puis, des jeunes femmes aussi livrées elles-mêmes, qui se retrouvent seules avec les enfants, puis souvent en perdition et en échec professionnel, totalement. Donc, ce groupe, il est utile, justement, pour exercer ce contrôle. Et c'est là que, justement, en Guyane, on se retrouve avec cette multitude d'options et de possibilités. Mais une forte attractivité du monde occidental, d'une certaine manière. Il est fortement attractif.
Oui, forcément.
Il donne cette image, il renvoie cette image de liberté, d'émancipation, ou même la femme occidentale, on a l'impression qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut.
Oui.
Non. En fait, non, pas du tout. Elle aussi, elle se bat. En fait, quand on regarde, écoute bien ce qu'elle dit. Tu vois,
c'est sûr.
Oui, c'est que ça donne cette impression-là. Tu vois, elle est trop libre. Et je me rappelle d'ailleurs des étudiants Hmong avec lesquels j'ai eu ce débat ici à l'université qui me disaient non, mais nous, c'est impensable de vivre ensemble sans être mariés. Et ils éclataient de rire lorsqu'ils entendaient ça en disant mais non, mais vivre ensemble sans être mariés, mais non, c'est impossible. Et beaucoup disent oui, bon, on part. Parce qu'on veut vivre à la française.
Vivre à la française,
ouais, on veut vivre à la française. Et c'était ça, c'est on peut vivre ensemble sans être mariés. En fait, il y a une idéalisation du modèle, d'une certaine manière. Ça. Mais en même temps, ben, j'ai presque envie de dire, quelle que soit la société aujourd'hui, à travers le monde, on voit que les femmes ont un long chemin à parcourir. Et il n'y a pas beaucoup de sociétés qui respectent les droits des femmes. Non, et là-dessus, il faut être vigilant, quoi. Les femmes ne sont pas forcément libres simplement parce qu'elles peuvent s'habiller comme elles veulent. C'est pas ça, c'est un peu simpliste. Parce qu'en réalité, non, on peut pas s'habiller comme on veut en réalité.
Non, c'est plus compliqué voilà. que ça quand même.
Exactement, c'est plus compliqué. On a cette impression de dire oui, mais elle peut s'habiller. Ouais, mais non, pas vraiment.
Mais tout est fait pour vendre voilà. ce modèle-là, en fait.
Exactement.
On ne peut pas en vouloir, en fait, à ces populations-là, d'idéaliser et de se dire « Ah, oh, j'aimerais vivre ça », parce que c'est vraiment tout un environnement qui est fait pour vendre du rêve et dire que c'est parfait là-bas. Et,
voilà.
C'est comme ça.
Et on a l'impression en fait. Que bah, tout est accessible, tellement facile. Et en réalité, bah, ils vivent dans une galère incroyable. Ou non, c'est difficile de vivre dans les sociétés occidentales où beaucoup fantasment. J'ai interviewé beaucoup de jeunes qui fantasment sur les États-Unis, par exemple. Bah, je sais pas, ça fait pas vraiment rêver. Quoi.
Non, c'est quand même
surtout compliqué. Pas en ce moment.
Oui, c'est sûr, pour les femmes, là.
Exactement, voilà, c'est ça la réalité. C'est la réalité raciale, c'est la réalité de traitement des femmes. Et pourtant, ils arrivent quand même à vendre leurs rêves. Quoi.
Bah oui, c'est ça.
Donc c'est tout ça justement qu'on essaie de remettre un peu dans le droit chemin d'une certaine manière, en faisant comprendre aux femmes que j'accompagne que non, la vie c'est pas... Ben, j'ai beaucoup de récidivistes mules aussi, la plupart. Là on a des difficultés aussi à les dissuader, parce que c'est la vie facile, l'argent facile, la consommation. Donc il y a tous ces obstacles aussi à surmonter, qui sont pas évidents. Donc voilà tout ce travail d'accompagnement des femmes, en Guyane particulièrement, parce que ici on a cette vision, en fait, on a du mal à valoriser notre côté rural, j'ai envie de dire. On a du mal à le valoriser en disant non, non, c'est une force en fait, c'est un avantage. Et il y a beaucoup de gens qui nous envient ça, et ça on n'arrive pas à le voir encore. C'est à chaque fois on va nous dire, mais il n'y a qu'en Guyane qu'on voit ça, il n'y a rien chez nous. Mais ici, c'est incroyable. Mmh. Et on va toujours voir l'aspect négatif. Mmh. Sans se rendre compte que, ben, attends. Oui, ok, oui. Ben, comme partout, tu vois, il y a des défauts, oui. Mais regarde un peu. Regarde la qualité de vie aussi que tu peux avoir. Mmh. Et c'est tous ces aspects-là qu'on essaie de revaloriser pour permettre aux femmes de s'épanouir. Et aux hommes et aux femmes aussi, d'ailleurs. Parce que l'idée, c'est de créer cette égalité entre les hommes et les femmes. Donc, c'est de montrer que, ben non, notre société... notre Guyane a ses forces, ses faiblesses. Ouais. Mais focalisons aussi sur nos forces. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour être mieux ? Et c'est tout ce discours-là qu'on essaie de relancer un peu, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de pessimisme, une vision de l'avenir qui est extrêmement pessimiste, beaucoup de difficultés à se projeter, des jeunes qui sont complètement désœuvrés, qui ont des difficultés à comprendre l'intérêt de la scolarisation, qui sont en décrochage scolaire. Là, on se dit non. En réalité, ta vie, elle est intéressante. Et c'est ça qu'on essaie de revaloriser, justement, avec beaucoup d'interventions dans les établissements.
Mais parce que c'est vrai que les décrochages scolaires, moi, je pense que j'ai un peu l'impression que je le saisis plus là, comme je suis en Guyane, parce que je me dis que... avec tout cet environnement culturel, toutes ces racines différentes, enfin vraiment là pour le coup on l'a un peu évoqué, mais il y a tellement de populations qui ont des histoires vraiment différentes, et quand on voit les programmes scolaires, moi si je me dis que on leur apprend ce qu'on est en train de m'apprendre, enfin quand j'étais en métropole, je me dis que juste ça n'a absolument pas de sens si on leur apprend de la même manière que moi je l'ai appris en métropole, enfin ouais. Et enfin, juste, c'est pas possible. Hein, la manière dont on vit ici, j'apprendrais absolument pas les mêmes choses que si j'étais en métropole. Enfin, en fait, il y a une incohérence et dans le programme, et je pense, et dans la manière d'apprendre les choses, parce que, en fait, les cellules familiales, elles sont pas du tout pareilles. Enfin, l'habitat, il est pas pareil non plus. Donc, il y a pas une même capacité d'apprentissage, en fait. Et je pense que c'est quand même assez problématique, en fait. Enfin,
oui. Ça a toujours posé une vraie difficulté. Moi, je suis d'une génération, par exemple, qui a appris que Vercingétorix était notre ancêtre. Et là, on devait apprendre ça par cœur. Hein. C'était nos ancêtres, les Gaulois. J'ai appris ça, cette phrase-là, comme ça. Et Vercingétorix. Alors moi, ça me posait un problème parce que je cherchais les photos, justement, de gens qui pouvaient lui ressembler dans l'histoire familiale. Il n'y a vraiment pas un qui lui ressemble.
Il y a un problème.
Oui, je cherchais. Je dis, mais c'est quand même un peu bizarre, quoi. Et on insistait beaucoup là-dessus. Alors aujourd'hui, on voit que ça a progressé, parce que les années 70 et 80, 90, en fait de 70, 80, 90, on voit beaucoup de manuels scolaires locaux qui font leur apparition.
D'accord.
Mais il y a encore du chemin à parcourir, parce que il y a toujours cette fascination pour l'Europe.
Ah oui.
Ah oui, oui, toujours.
Alors que l'histoire culturelle ici, enfin, il y a tellement à apprendre. Enfin, il y a là, si rien que si les programmes ils se basaient sur l'histoire de toutes les populations en Guyane, enfin, ce serait d'une richesse. Et je pense que ça revaloriserait aussi les jeunes dans ce qu'ils sont, de se dire ah bah je suis fière, je connais ton passé à toi, je connais ton passé à toi, mais je connais aussi le mien et tu connais le mien.
Exactement.
Et ils vont savoir d'où on vient en fait, et il y a de quoi être fière, parce qu'il y a ces figures là aussi auxquelles on peut penser, de quelle on peut parler. C'est quand même important.
Souvent, je dis ça. Je dis que la Guyane a peut-être un exemple à montrer. Parce que nous, la diversité, on l'a toujours connue. Ça a toujours été. Ben, on peut montrer à d'autres, ben, oh, c'est quoi, c'est de la diversité, mais c'est rien, ça. C'est rien du tout. Ben, nous, on fait ça tous les jours. Ça pose pas de problème. Et à chaque fois, par exemple, encore à l'université, je vois toujours des étudiants qui vont soutenir leur mémoire de Master 2 et qui vont mettre en introduction la barrière de la langue ou bien le problème du bilinguisme. Ils vont écrire ça. Et je leur demande à chaque fois, je dis, combien de langues vous parlez ? Ben, 3. Et c'est un problème. C'est une barrière. ils me disent, ben non. Ben pourquoi vous écrivez ça ? C'est des automatismes. Je dis, ben non, maintenant il faut faire ce travail de réflexivité et voir la force que vous avez en vous et que vous pouvez apprendre à d'autres. En fait, qui est en difficulté, c'est les monolingues, quelle que soit la langue en fait. Le monolingue est en difficulté, mais pas vous. Vous êtes minimum trilingue.
Là,
ça va.
Ici, c'est sûr.
Ben ouais, minimum. Minimum trilingue. Bon, ça va. Là, t'es pas en danger. Mais parler qu'une seule langue, et quelle que soit cette langue, c'est problématique. Ici, c'est problématique. Je dis, voilà ce qu'il faut apprendre aux autres. En disant... en disant, ben non. La question de la multiculturalité, du plurilinguisme, ces questions-là, ben ce sont nos forces et on peut les enseigner. Et ça, ben c'est ce que je fais justement à l'INSPE avec les groupes d'enseignants, de futurs enseignants qui sont formés. Je travaille que sur ces questions-là. comment utiliser la diversité culturelle pour en faire une force dans sa pédagogie. Mm-hmm. Comment on utilise cette diversité pour faire un atout pour nos élèves, mm-hmm. et que ça ne devienne pas une honte, un frein, où je ne parle pas de mes origines.
Et valoriser, en fait, voilà, à travers ça.
Alors, premier cours que je fais avec eux, c'est l'histoire migratoire. Et quand je parle d'immigration, je commence par l'immigration amérindienne. Et ça, ils sont surpris. Immigration amérindienne, je dis, bah oui, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Mm-mm. Ils sont pas, ils n'ont pas poussé du sol comme ça.
C'est sûr.
Donc, on commence par la préhistoire. Voilà, on commence par la préhistoire. Et puis, on fait l'immigration, les homo sapiens.
Et les chemins et tout ça.
Les chemins, et c'est l'histoire de l'humanité. Mm-mm. Et ça, ça permet de replacer justement dans le contexte, sur la frise chronologique. Mm-hmm. Ça permet de replacer tout le monde sur un même pied d'égalité. Mm-hmm. Dis voilà, ça marche comme ça. Même certains Amérindiens sont arrivés après les colons. Donc ça, c'est intéressant. Mm-hmm. Dis voilà, puis on refait un peu la frise chronologique. Mm-hmm. Je dis, mais c'est ce qu'il faut savoir, c'est l'histoire de l'humanité et on va continuer à se déplacer. Mm-hmm. Et tout comme nous, on a envie d'aller à l'étranger, de vivre à l'étranger, d'être fasciné peut-être par un pays étranger, ben, d'autres sont fascinés par nous. Voilà.
Oui, c'est sûr.
On a envie de vivre ailleurs, faire une tentative, une expérience, mmh. bah, eux aussi. Mmh. Et ça, c'est humain. L'être humain, il a la bougeotte. Il a toujours fait ça, et heureusement, parce que c'est justement ce qui nous a permis, en tant qu'homo sapiens, d'être là. Mmh. Parce que toutes les autres espèces qui vivaient à côté de nous sont parties, ont disparu. Et homo sapiens, lui, il n'a pas arrêté de se mélanger, de se balader, de s'adapter. Et on est, c'est la seule espèce à peupler tous les écosystèmes. Que ce soit dans le désert, on va retrouver des humains. Que ce soit dans le Grand Nord, on va retrouver des humains. La forêt, on va retrouver des humains.
Là.
On est partout.
On est partout. C'est vrai.
La seule espèce qu'on va trouver, alors on cherche un humain, et oui, c'est bon. C'est la seule espèce. C'est, bah oui, c'est notre force. Qu'est-ce qui nous a permis de faire ça? C'est le mélange, c'est la diversité. C'est la circulation. Ça nous a permis de nous adapter à différents climats, différents environnements. Et puis on apprend par imitation. On a beaucoup appris par imitation. Comment fait l'autre? Et ça, c'est une bonne technique, justement. J'arrive dans un pays, qu'est-ce que je dois faire? Bah, regarde ce que la population fait.
Oui, c'est vrai.
Voilà. On apprend par imitation.
Se fondre dans la masse rapidement.
Instinct de survie, c'est bah, je vais faire comme eux. Et comment ils font? Je fais comme eux. Il faut suivre, en fait, ce que l'autre fait, parce qu'il a raison, en réalité. C'est, il sait. C'est un être humain comme moi, il sait que pour vivre là, c'est comme ça. Et ça, malheureusement, on n'a pas vraiment cette conception. C'est, on vient avec son ethnocentrisme. On va venir, on va se poser, on va imposer, on va dire « Oh, mais je ne peux pas manger ça, j'aime pas ça, mais c'est écœurant. » Voilà, on vient avec son ethnocentrisme, alors qu'en fait, non. Tout ce qu'il mange, je peux le manger aussi, en réalité. Et c'est quand on se décentre, ça permet justement de relativiser tout autour de nous. Et c'est ce travail-là de déconstruction, justement, et puis de réflexivité, puis de déconstruction de stéréotypes que j'essaie de faire dans mon métier d'anthropologue depuis plusieurs années. Quoi. C'est des sujets qui me plaisent.
Oui, c'est vrai, c'est des sujets qui sont très intéressants, d'ailleurs. Oui.
C'est passionnant. Ah oui, ouais, ce sont des sujets que je trouve utiles, en fait. J'ai envie de... Dans des interventions, je me dis, faut servir à quelque chose.
En parlant d'intervention, en fait, la deuxième fois où je vous ai vue, c'était quand vous étiez intervenante au Festival du film documentaire pour la projection Madame Sarah.
Qui était vraiment, sur Haïti,
qui était vraiment très, très intéressante. Donc, il parlait de ces femmes qui, en fait, sont vraiment centrales à l'économie du pays et même pour vivre à Haïti et qui viennent et qui doivent transporter tous les légumes entre la campagne et la ville pour pouvoir les revendre à la ville. Qui font un travail monstre. Hein, c'est vraiment impressionnant. C'est vrai que du coup, maintenant, quand je vois des Haïtiennes ici, je suis en mode... j'ai beaucoup de respect pour ce que toutes les femmes font en Haïti, pour tout ce qu'elles font.
Haïti, ça vaut le coup. C'est-à-dire vraiment, pour comprendre les Haïtiens ici, il faut aller en Haïti. Moi, je dis, on ne peut pas comprendre l'immigration haïtienne sans avoir été là-bas. Ça explique tout. En fait, on comprend tout. Ça explique tout. Parce que Haïti, c'est la planète Mars. C'est vraiment ça. C'est la planète Mars. On est dans un autre monde. Hein. On est complètement coupé du monde. C'est pas comparable. En plus, dans la zone là, géographique, on est dans les Caraïbes. Je sais pas, on a la République dominicaine à côté où c'est tourisme, beaux hôtels, les superbes plages. Non, Haïti, c'est à qui est à côté. Dans toute la Caraïbe, il n'y a pas d'équivalent. c'est vraiment particulier.
Ouais.
Et ça permet, moi, ça m'a vraiment permis de comprendre tout ce qui se passait ici,
ouais.
toute l'organisation. Et c'est un pays qui marque, en fait. Il est vraiment... on sort pas de là indemne, quand même. Hein.
Ah, ok.
Ouais. En plus, j'y suis allée avant le tremblement de terre et après.
Ah oui. J'ai pu voir la différence,
wow.
quand même.
Waouh. Oh non, c'est... on est marqué. Moi, vraiment, ça m'a... C'est... J'en ai vu des pays, je sais pas, j'ai visité quelques pays d'Afrique subsaharienne, j'étais en Inde. Moi, je veux dire, j'ai sillonné le monde et vu des pays compliqués.
Mm-hmm.
Alors, Haïti, on arrive, on voit la personne se déplacer avec un âne et puis un moulin. Là, je dis non, j'ai pas vu ça ailleurs.
Mm-hmm.
Et puis en plus, c'est pas on va dire que c'est pas un mode de vie typique rural où on va prendre une photo en disant oh que c'est trop mignon, ils ont envie de garder leur mode de vie. Mmh. Non, c'est qu'ils n'ont pas le choix.
Mmh.
On va prendre ce genre de photos par exemple en Europe dans le petit village.
Oui.
On va dire le papy qui est là avec son âne mmh. et le moulin. Oh, ça fait super cliché. Mmh. Là non, on voit bien que s'il avait pu avoir une voiture, il aurait préféré. Hein.
Mmh.
On le sent quoi, on ressent ça vraiment très fortement. C'est pas. On n'est pas dans le choix, voilà, on n'est pas dans le choix, tout est contraint.
Mmh.
Et c'est pour ça que c'est vraiment marquant, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est ainsi, et on sent bien que si on ne se prend pas en charge soi-même, on meurt.
Ouais.
Donc c'est vraiment très très particulier.
Il y a des conditions
de... Oui, il n'y a pas d'État, il n'y a pas, pas d'organisation, si tu ne te débrouilles pas, parce que ces femmes, justement, ne se débrouillaient pas pour leur famille.
Mmh.
Et on voyait justement dans ce documentaire, dans Sarah, on voyait la fierté de la maman qui disait, voilà, le parcours de mes enfants.
Mm-hmm.
Et j'ai eu l'occasion de discuter avec une femme il y a 10 jours. Et elle me dit, moi, j'ai pas été à l'école, je sais pas lire, je sais pas écrire. Mais alors, et puis elle m'a décrit tout le parcours scolaire de ses enfants. Elle était tellement fière.
Mm-hmm.
Elle était tellement fière. Et puis, au bout de quelques minutes de la conversation, j'ai dit, vous savez, c'est l'histoire de ma grand-mère. Et elle a sursauté, parce que pour elle, moi, je ne pouvais pas avoir cette histoire-là.
Mmh.
C'est pas possible. C'est l'histoire des Haïtiens, quoi.
Mmh.
Je lui ai dit non, c'est l'histoire de ma grand-mère, analphabète, elle n'a jamais appris ni à lire ni à écrire.
Mmh.
Et elle s'est battue pour que ses enfants aillent à l'école.
Mmh.
Et je lui ai dit, ma maman est devenue institutrice. Elle m'a fait... Oh. Elle était émerveillée. Mmh. Parce que c'était vraiment le métier, quoi.
Mmh.
Elle était émerveillée. Mmh. Et c'est ça que je trouve qu'il est important, justement, de faire ici.
Mmh.
C'est de pas hiérarchiser, parce que la population a tendance à creuser les écarts, à cliver, à hiérarchiser, et l'économie a beaucoup trop de place maintenant dans nos relations sociales.
Mm-hmm.
C'est quel niveau social, quelle catégorie sociale.
Oui.
Et j'ai connu une Guyane où ça n'avait pas autant d'importance. Il y avait, mais pas autant d'importance. Et là, je vois qu'on est en train de copier ce modèle. Et justement, moi, je trouve que c'est important. Je parle toujours de mes origines très modestes, parce que mes grands-mères, les deux, étaient veuves et n'ont pas été scolarisées. Mes parents n'ont pas fait d'études. Ils ont arrêté en troisième. Ils ont travaillé très tôt. Et moi, je me retrouve avec un doctorat et même plus loin. Je savais même pas que ça existait. J'ai découvert que, en faisant le doctorat, j'ai découvert qu'il y avait un diplôme après. Donc j'ai une habilitation à diriger des recherches qui est le plus haut diplôme universitaire français. Et là, je pensais que j'aurais fait ça un jour, parce que j'ai l'école sans plus, j'étais pas une super bonne élève. Et puis j'ai eu un déclic à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je travaille pour moi, je travaille pas pour mes parents, pour les profs. Et j'ai découvert l'anthropologie, c'était le coup de foudre. Et j'ai fait des études pour moi, en fait. Je ne savais pas qu'il y avait un métier derrière. Et l'anthropologie m'a permis de comprendre qui j'étais, en fait. J'allais en cours pour comprendre qui j'étais. Des cours sur l'identité, quand même. Des cours sur l'immigration, des cours sur le carnaval. Des cours... Mais c'est extraordinaire, quand j'ai
dit.
Qu'est-ce
trop bien.
Que c'est que ce diplôme-là? Et je continuais, continuais, continuais. Je réussis chaque année. J'arrive en thèse. Je soutiens ma thèse. C'était incroyable. Et alors que je ne suis pas dans une famille, un environnement où on fait des études, où il y a des diplômés, où il y a des médecins. Non, pas du tout. C'est une famille très modeste. Et en même temps, j'en suis fière, parce que je vois que c'est ça qui m'a donné cette force, justement.
Mm-hmm.
Et c'est ce que je tiens à rappeler, justement, dans notre société, c'est de toujours créer des passerelles entre les gens. parce qu'on a trop tendance à mettre en avant nos différences. On focalise là-dessus, c'est assez impressionnant. Mmh. D'abord, nos différences physiques. Alors, je te vois, donc tu es différent de moi, t'es pas, tu ne me ressembles pas, tu ne peux pas penser comme moi. Mmh. Ben, c'est faux, qui t'a dit ça? Peut-être qu'on a, on se ressemble beaucoup et qu'on peut être les meilleurs amis du monde. Non, mais c'est pas possible, on ne se ressemble pas, on n'est pas de la même communauté. Ça, c'est incroyable, on se met déjà des barrières rien qu'au regard. Mmh. Et ça s'accentue.
C'est sûr.
Ouais. Et là, ça, tout ça me pose problème. Et justement, quand je commence à discuter avec les gens autour de moi, je dis, bah, tu sais, moi aussi. Ah ouais. Et là, bah, voilà, on va créer des liens.
Ouais, c'est ça.
C'est ce que, justement, c'est ce travail-là que j'encourage à faire. C'est de trouver nos points communs, puis quelles que soient nos identités, nos orientations. Parce que je vois aujourd'hui, il y a tout le discours sur les orientations sexuelles qui rentrent dans le débat. Et on va faire un groupe disant, ben non, ben voilà, c'est la communauté LGBTQI+, QIA+, voilà. Ben non, mais peu importe, je suis peut-être hétéro, mais moi, j'ai des points communs, quoi. Non, je peux avoir des amis. Non, tu sais qu'on peut se parler, quand même. Voilà, et c'est tout ça.
Et c'est important, justement, qu'il y ait des conversations qui se fassent, qu'il y ait des liaisons entre les deux, pour justement qu'en fait, il n'y ait plus besoin qu'il y ait un groupe précis.
Voilà.
Pour définir ces identités-là, en fait.
Exactement.
C'est nécessaire à un moment donné, en fait, pour se constituer, je pense, et pour réussir aussi à se défendre face à une société qui rejette beaucoup. Et en même temps, les liens sont vraiment nécessaires pour faire en sorte qu'à un moment donné, il n'y en ait même plus besoin.
Exactement. Un groupe précis. Voilà. Le plus de groupe, c'est l'idéal. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est non, je n'ai pas de groupe, je suis avec des humains. Voilà, c'est d'autres humains. Et ça, c'est des questions que j'essaie d'aborder avec des plus jeunes aussi, parce que je me rends compte que dans la société guyanaise, c'est des sujets qu'on n'a presque jamais abordés. Les questions d'orientation sexuelle, d'homosexualité, etc., c'est des sujets tabous. Ouf, alors là, c'est très nouveau.
Hein.
C'est tout nouveau. Hein. Ah oui, oui,
là. Doucement, là. Parce que...
Oui, on sent qu'il y a beaucoup de frilosité. Hein. Ah ben, moi, j'aime bien les challenges.
Pour le coup,
ah oui, là, je dis, mais non, mais on va arrêter maintenant, ça y est, quoi. C'est, faut en parler. Donc voilà, tous ces sujets, justement, parce que je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui en souffrent aujourd'hui. Et des jeunes qui ont une autre façon d'aborder le sujet. Parce que moi, je vois, j'ai deux filles. Une de 14 ans, une autre qui aura 11 ans bientôt, dans quelques jours. Et en sixième, ma fille aînée m'a dit « Maman, si je suis amoureuse d'une fille, qu'est-ce que tu vas dire ?» Je dis « C'est marrant parce que moi, en sixième, mais j'aurais même pas eu l'idée de poser cette question-là à ma mère. » Et là, je me dis « Waouh, il y a vraiment un changement aujourd'hui, cette génération. » Et là, je lui ai répondu « C'est rien, c'est de l'amour. » Ah, ok. Voilà, discussion close. Je dis « Oui, mais... » Une fille, un garçon, je dis, c'est de l'amour, c'est tout. Ah ouais, d'accord. Mais t'es contente. Super contente. Je dis, non, mais c'est énorme ce qui se passe. Moi, j'aurais jamais posé cette question-là. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Il faut maintenant aborder ces questions. Toute l'idée, elle est là. C'est vraiment tous les sujets tabous, moi, ils me plaisent. C'est pas de tabou, justement. C'est de pouvoir aborder parce que c'est la clé pour moi du bien-être et du vivre ensemble. C'est justement en abordant les sujets qui dérangent. Non, c'est qu'on ne va pas faire semblant que tout va bien, on s'aime. Je ne supporte pas ça. C'est faux, ça ne va pas. Et là, je vais commencer à dire ça ne va pas. Là, ça ne va pas du tout. Et c'est justement pour moi, c'est pour ça que je fais beaucoup de débats, je participe à beaucoup de débats sur la question haïtienne, d'ailleurs. Je ne sais pas comment le débat sur Haïti, je ne sais pas comment les gens l'ont perçu, parce qu'ils ont vu déjà une image d'Haïti qu'ils ne connaissent pas. On ne parle pas beaucoup des Haïtiens ici. Sinon, on en parle, c'est pour les demandeurs d'asile, pour l'immigration clandestine, pour les squats, démantèlement de squats. On n'en parle pas beaucoup. Donc, c'était bien. Pour moi, j'ai accepté justement, parce que je me suis dit, Haïti, ouais.
C'est parlons-en. Important d'en parler, c'est vraiment important. Voilà. En fait, là, en Guyane, il y a quand même des grandes communautés, il y a plein de gens, quand on voit, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de Haïtiens, en fait, et de Haïtiennes, donc c'est important d'en parler. C'est quoi leur histoire? Qu'est-ce qui se passe sur place? Ma sœur, elle m'a dit, moi, je veux surtout aller là, je veux surtout comprendre ce qu'elle travaille en médecine, en fait, elle en rencontre plein. Alors, moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe sur place, je veux voir, en fait, ces femmes, qu'est-ce qu'elles vivent, et donc... Et comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui sont là et même quelles sont leurs vies de base, en fait, pour réussir à comprendre et pouvoir mieux rencontrer ces personnes-là, en fait, parce qu'elles sont, mine de rien, elles font quand même partie de nos quotidiens. Ouais. On a beaucoup qui sont femmes de ménage, qui font partie tout le temps de la société,
et qui sont là autour, qui sont autour de nous et qu'on n'identifie pas du tout comme étant haïtiennes. Ouais, j'ai eu un cas, justement, d'un débat il y a quelques années, ça doit faire 5 ans. Mais ça m'a marqué parce qu'il y a une jeune femme qui a pris la parole et qui a éclaté en sanglots parce qu'elle a avoué, et là c'était vraiment c'était un aveu, elle dit je dois avouer que j'avais honte de ma mère parce qu'elle était haïtienne, je voulais pas le dire. Et elle a éclaté en sanglots en disant mais je regrette d'avoir fait ça, je m'en rends pas compte. Mmh. Et justement après tout ce débat sur l'identité, sur la revalorisation de soi, sur l'estime de soi, et tous les propos que j'ai pu tenir, elle me dit mais je viens de me rendre compte que... C'est grave, quoi. Et elle a éclaté en sanglots en disant mais je rejetais ma mère parce que j'avais honte. Mmh. On ne se rend pas compte du drame que ça peut provoquer, quand même. Cette identité négative, cette assignation, en plus, et tu es ça, et tu ne changeras pas. Ben voilà, autour de nous, il y en a qui sont et qui ne le diront pas, par peur du regard de l'autre. Mmh. C'est invivable, tout ça. Moi, c'est ce que je trouve totalement intolérable.
Alors que les femmes haïtiennes, c'est quand même vraiment des vraies battantes. Hein.
Ah oui.
C'est vraiment des femmes, elles donnent tout ce qu'elles peuvent, surtout pour leurs enfants à chaque fois. Oui. Ouais, c'est vrai qu'elles sont toujours très fières quand ils vont à l'école. Oui. Tout pour l'enfant, c'est bon, tout.
Exactement.
Moi, après, je prends que ce qui reste, quoi. C'est vraiment...
Oui, c'est ça. C'est des sujets qu'il faut aborder parce qu'il y a du bon à prendre. Et l'image qu'on renvoie, c'est toujours l'image négative, comme s'il n'y avait rien à apprendre d'Haïti. Moi, je dis non, faut y aller alors, vous allez apprendre la résilience, hein, parce que là, pour vivre dans ces conditions, la personne qui vient de là, elle est forte. Hein. Franchement, on vient d'Haïti, et quand je vois justement toute cette diaspora haïtienne qui réussit au Canada et aux États-Unis, je ne suis pas étonnée du tout. De brillants écrivains, des chercheurs extraordinaires... dans le monde artistique. Je regardais encore d'ailleurs un petit documentaire sur Jean-Michel Basquiat que j'adore, je suis fan, totalement fan. Je craque complètement là. ces tableaux, je sais pas, moi je regarde, je comprends ça, c'est son tourment, quoi. Et il racontait justement son histoire avec Haïti, son lien avec Haïti. Et en fait, il disait mais moi je suis né aux États-Unis en fait. Alors il parle tout le temps d'Haïti. Dit ok, mais moi on lui dit mais votre influence artistique, est-ce qu'elle vient pas d'Haïti? Il dit peut-être, mais j'en sais rien. Et c'est justement sûrement, c'est-à-dire que ses parents lui ont transmis, mais il sait pas, il est né là et maintenant je suis américain, puis voilà, sûrement. Mais on le retrouve dans ses œuvres, en tout cas, il y a toute cette complexité de l'identité que j'aime énormément, vraiment. Et là, je dis, mais c'est ça Haïti, justement. C'est toute cette diaspora qui a des choses à apprendre, à transmettre. La résilience, surtout. Hein, vraiment, c'est un mot qui convient pour Haïti. Parce que vivre là-bas, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est au quotidien, on voit les difficultés. C'est vraiment c'est Mars. Hein, c'est vraiment un autre monde. Même quand on est, je voyais les expatriés et tout, c'est quand même pas évident, quoi. C'est peut-être qu'on est dans sa petite bulle, sa petite voiture, mais autour, on peut pas fermer les yeux quand même.
Ouais.
Tout est là, hein, c'est autour.
Ouais,
tout est là. Donc c'est à voir, à visiter. Il faut prendre conscience pour comprendre l'autre. Moi, je dis oui. Ben il faut va voir justement chez lui comment c'est, qu'est-ce qui se passe. Et c'est ce que l'anthropologie m'a appris à faire, c'est-à-dire justement à se décentrer, en se disant, mais les autres, l'autre n'est pas toujours forcément différent de toi, pas toujours, non. Oui, on peut avoir des différences, c'est normal, parce qu'on est unique. De toute façon, tu es différent de tes frères et sœurs aussi, donc on est tous uniques. Et beaucoup vont nous dire d'ailleurs, ah non, je ne ressemble pas à ma sœur, alors là, rien à voir. Hein. Et voilà, pourtant vous êtes de la même famille. Donc déjà au sein d'une même famille, on peut avoir des différences.
Oui, c'est sûr.
Mais on peut avoir aussi des ressemblances avec des gens extérieurs. Et c'est sur ça qu'il faut travailler aussi. Et pas uniquement ce qui nous divise, ce qui nous sépare. C'est aussi tout... on vit en Guyane, au bout d'un moment, moi je me dis à force de vivre ici tous ensemble, au bout d'un moment on finit par avoir des points communs quand même.
Mais c'est sûr, d'habiter sur le même territoire, il y en a forcément.
Bah oui, là à force de se côtoyer... ça me rappelle une anecdote, c'est une maman métropolitaine qui me disait, qui me confiait, elle me dit, j'ai un problème. J'ai un problème, c'était une amie, elle me dit, j'ai un problème. Elle me dit, tu sais, mes enfants, ils mangent à la cantine. Je dis, ouais. Elle me dit, mais maintenant, le week-end, ils veulent manger des haricots rouges, des lentilles, du riz, des bananes frites et du poulet fricassé. Je dis, mais je sais pas faire ça, moi.
Un problème. Ça va, il y a pire que...
Et j'ai adoré son problème. Il dit, ben voilà, voilà tes enfants, ben, ils sont en train de vivre dans un autre monde. Voilà, ils sont dans un autre monde et ils sont en train de découvrir autre chose, ça leur plaît. Et ils t'ont réclamé, ils disent, voilà, je veux ça.
J'ai dû les fricasser. C'est vrai que du coup, vous êtes déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité en Guyane depuis 2019. C'est vrai que je me dis que être déléguée aux droits des femmes en Guyane, je pense que c'est quand même particulier. Enfin, en fait, je me demande un peu quelles sont vos missions principales.
Alors, c'est une direction. C'est pas déléguée, en fait, c'est pour les départements. Mmh. En fait, c'est organisé de cette manière. C'est que dans chaque région, il y a une direction et des délégations départementales. Okay. En Guyane et en Martinique, Guadeloupe, Réunion, il n'y a que des directions parce que nous sommes monodépartementales. Ouais. Donc région monodépartementale, il n'y a qu'une direction régionale en fait. Mm-hmm. Donc je suis seule. Les autres régions ont la direction et les délégations. Ouais. Moi, je suis toute seule avec la Martinique, la Guadeloupe, Réunion, on est seule. Ouais. Donc j'ai toute la superficie du Portugal. Quoi. Souvent, je leur dis ça, je dis toute la Nouvelle-Aquitaine. Quoi.
C'est beaucoup quand même.
Alors, c'est quoi les missions? Enfin, c'est beaucoup en même temps. Bon, je connais mon pays, l'avantage, c'est d'être anthropologue. D'ailleurs, j'ai pas attendu pour pouvoir sillonner, donc ça, c'est bien. J'ai fait toutes les communes de Guyane. Je les connais toutes, je les sillonne régulièrement. Donc ça fait partie de mon métier. Quelles sont mes missions? En fait, j'ai trois axes majeurs, on pourrait dire ça. C'est vraiment d'abord l'accès aux droits. C'est la priorité, c'est-à-dire que j'ai une question, j'aurais dit que j'ai un problème, je dois pouvoir trouver un interlocuteur gratuitement. Mmh. L'accès aux droits gratuitement. Mmh. Donc là, du coup, j'ai agréé une association qui s'appelle l'Association guyanaise d'aide aux victimes.